Retrouvez Qu'est-ce qu'on déguste avec Biosol, épicerie bio, avenue Gambetta à Montauban. Biosol, la nature chaque jour dans votre assiette.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour ! Allez, ils sont tous là. Il y a Georges. Salut Georges.
Bonsoir.
Il y a Pascal Olivier. Salut Pascal.
Salut à tous.
Il y a Fabien. Pardon, je vais y arriver. Salut Fabien.
Bonsoir tout le monde.
Et Christophe également.
Bonsoir tout le monde. C'est bizarre, on est tous là ce soir.
Ah oui. Pourquoi. C'est étonnant.
Ah, il manque que Monsieur Combalbert.
Oui.
Il bosse lui.
Et il a failli venir. Alors pourquoi, effectivement, dit-il que. Précise-t-il qu'il y a beaucoup de monde autour de la table.
Précise-t-il.
Tout simplement parce que nous avons deux invités ce soir qui sont tous deux producteurs de foie gras, membres de l'association des producteurs de foie gras du Tarn-et-Garonne. Nous avons le plaisir d'accueillir Alain Degans qui est producteur à Albias, la ferme Lamboucaire. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être ici. Et Claude Mourgue également, producteur de foie gras, lui, à Puy-Cornet. Bonjour Claude Mourgue.
Bonjour et bonsoir tout le monde.
Vous allez bien, c'est super ce que vous nous avez emmené là.
On verra par la suite.
Ah ouais, vous allez nous montrer le programme dans un instant. Les verres se sont remplis. Je pense que, tiens, je vais en prendre un. Je vais te le passer.
Belle couleur.
Tiens, allez, on va pouvoir commencer cette émission si vous le voulez bien.
En trinquant,
comme on le fait d'habitude. Tenez, tiens, je passe celui-ci.
Merci.
C'est à la vôtre qu'on trinque ce soir. Chin, chin.
Ah, pardon.
Ah, bon, celui-là, je le garde. Chin.
Alors, voilà.
Allez, c'est Qu'est-ce qu'on déguste. Venez vous asseoir autour de cette table. On est parti pour 1h30. I've got the backbone. The back way to skip. Climbing a tree with the missing limb and not saving anyone. Now it hurts to stay at home and see flash the mirror balls throwing molding. You can't get a grip if there's nothing to hold. You see the flash catch your right.
L'année, c'est l'heure des bilans et dans la catégorie pop rock, je propose le dernier album des MGMT. Croyez aux victoires de la musique.
Pour qu'il faut y voter.
Qu'est-ce qu'on déguste ? Alors, on n'a pas fait vraiment de sommaire hein, tout à l'heure, mais on sait, Pascal, que tu vas nous proposer comme recette le millefeuille de foie gras poêlé au pain d'épices. Ça risque d'être quelque chose quand
ça,
même.
C'est
hein.
Bon.
pour Georges, c'est un peu une amie qu'il a perdue.
Oui, hein, la doyenne des musiciens montalbanais, Mano Larocque, connu sous le nom de Mano Reina, qui est décédée cette semaine à l'âge de 91 ans.
Pour Fabien, ce sera une application iPhone ce soir.
Oui, ouais, un petit jeu français en plus, donc c'est pour ça qu'il faut le souligner.
Voilà, quant à Christophe, forcément ce sera Psychologie Magazine.
Mais non, c'est un disque ce soir, ah, ça faisait longtemps, c'est le dernier album de Femi Cuti, Africa for Africa, il est sorti il y a 15 jours.
Alors voilà, maintenant, si vous le voulez bien, nous allons faire connaissance avec l'association des producteurs de foie gras du Tarn-et-Garonne au travers de ses deux producteurs, Alain Degans et Claude Mourgue. Et puis au travers des produits qu'ils nous ont apportés et qui s'étalent maintenant sur la table. Vraiment, vous irez voir sur
des
le site.
Produits.
Vous irez voir sur le site internet quand l'émission sera en podcast. Il y aura des photos. On va commencer par celui qui est disposé, qui a pas encore, qui a pas les mains prises. C'est vous, Alain Degans. Donc vous êtes producteur de foie gras à Albias. Voilà, la ferme Lambucaire.
Lambucaire, oui. Lambucaire. C'est la ferme familiale. Et j'ai lancé la production de foie gras quand je me suis installé. Donc ça remonte à plus de 30 ans maintenant.
Ah oui.
Oui, ça fait un bail. Et voilà, et on est toujours là avec.
Quand on va à Albias, les canards qu'on voit sur le côté de la route, voilà, la route de Paris, c'est les vôtres.
Voilà, c'est les nôtres. C'est, ils arrivent à un jour, ils arrivent du couvoir. Et donc, ils sont élevés avec les céréales de la ferme, gavés, transformés et vendus sur place.
Depuis 30 ans, vous faites du foie gras.
Voilà.
Ouais. Il y a 30 ans, la ferme, elle avait un autre visage, j'imagine. Il y avait d'autres choses.
Disons que oui.
Vous êtes spécialisé au fil du temps en foie gras
La ferme était. Je me rappelle dans mes jeunes années quand je galopais derrière mes parents. Donc la ferme était avec un peu de vignes, des céréales. Il y avait un petit troupeau de vaches laitières. Bon, et puis avec quelques plantations de pêchers, c'est mon arrière-grand-père qui avait planté les premiers pêchers entre les deux guerres, donc il y a tout le temps eu du pêcher jusqu'à ce, oui, à mon installation, en conserve encore il y en avait, et puis bon, comme tous les pêchers du Tarn-et-Garonne, eh bien bon, ils ont été retirés, et l'exploitation vit maintenant, grâce aux canards. S'est transformé un peu maintenant avec l'arrivée de mon fils, et j'ai fait des plantations en 93, 94, 95 suite à la PAC, où c'est que les prix des céréales nous avaient été promis d'être divisés par 3, ce qui est arrivé, et donc j'ai planté des châtaigniers, des noyers pour vivre de...
Ah, vous faites aussi de la châtaigne
De la production, mais pas de subvention.
D'accord.
Voilà. Et où on se commercialise nous-mêmes nos fruits.
D'accord. Vous avez un magasin à la ferme?
On a un magasin à la ferme, oui. Et depuis 2 ans, on a ouvert une ferme auberge qui nous permet de finaliser le produit jusqu'au bout. On ne peut pas aller plus loin.
Directement de la ferme à l'assiette.
De la ferme à l'assiette.
C'est ça qui est bon. Puis alors, circuit super court là pour le coup. On fait connaissance maintenant avec Claude Mourgue. Vous êtes à Puy-Cornet. Depuis combien de temps est-ce que vous faites du foie gras?
C'est comme mon collègue à côté, ça remonte à, je suis plus comme moi, on va pas compter les années, ça ne va je dirai pas, donc on va faire voir, on va vous dire ce qu'on fait aujourd'hui.
C'est sur l'exploitation familiale depuis...
L'exploitation familiale qui vient de mon grand-père, mon père, et voilà, moi je suis maintenant, et voilà, il y a encore mes enfants qui travaillent avec, voilà.
Ouais.
Donc
exclusivement foie gras, exclusivement canard ou...
Non, mais c'était un petit peu, ça ressemble un petit peu, c'était très diversifié, il y avait aussi des petites exploitations. Quand je me suis installé, moi, il y avait des fruits, il y avait des vaches aussi, il y avait un petit peu de tout.
Ce qu'on appelle la polyculture d'élevage.
Exactement. On est une région ici aussi qui a beaucoup de petites fermes, et puis les choses ont fait, les événements économiques et tout ont fait que nous sommes un petit peu orientés, nous surtout sur le foie gras, et on a deux grosses activités, nous, sur l'exploitation. C'est le foie gras et la vente directe de viande, de bovins, quoi.
D'accord. Voilà. Sur place, vous avez un laboratoire de découpe?
On en laboratoire de découpe. Oui, c'est que les bêtes sont élevées chez nous, abattues à l'abattoir de Montauban et transformées, découpées, préparées à la ferme, vendues à la ferme et sur les marchés de Montauban. Aussi, il ne faut pas oublier les GIE, où c'est qu'on a plusieurs points de vente sur le département toujours.
Ah ben voilà.
Voilà.
Et ce que vous nous avez amené, c'est du canard, hein, puisqu'on va parler aujourd'hui de cette association des producteurs de foie gras du Tarn-et-Garonne. C'est vrai que le Tarn-et-Garonne brille partout, sur tous les salons du tourisme, à Paris ou à Toulouse ou ailleurs. C'est ce qui fait briller, c'est sa gastronomie, et dans sa gastronomie, c'est le canard, quoi, hein, c'est le foie gras, quoi. Hein.
Oui, surtout le foie de canard. On a un petit peu oublié l'oie.
Oui,
autrefois, en fait, je me souviens chez ma grand-mère, à Noël, on avait une oie. Et oui, un foie d'oie.
Ça existe toujours. Et quand on parle canard, nous, c'est plutôt en général dans l'association. C'est canard et oie, et si, bien sûr. Parce que bon,
on voulait avoir ce soir un producteur de foie gras de canard et un producteur de foie gras d'oie. Mais ça a été assez compliqué de mettre en place cette émission avec Marilyn Georget de la Chambre d'Agriculture. Tout simplement parce qu'à cette heure-ci, dites-nous ce que vous faites à cette heure-ci, messieurs.
En principe, on grave.
Et ben voilà.
Et voilà. Voilà, et ben là, voilà, aujourd'hui, il faut dire que le.
Donc, on n'a pas eu de producteur de foie gras d'oie, parce qu'il
la gave, production voilà. D'oie, bon, quand je me suis installé, je gavais des oies à peu près à parité, autant d'oies que de canards. Et puis, bon, le marché a été. Le marché a fait que le canard a pris le dessus. Actuellement, moi, j'ai des chiffres là sur le département. On est entre 800 000 et 1 million de canards gavés. Contre 4000 oies.
Ah
les
oui.
producteurs Tarn-et-Garonnais.
La
production.
Ça disparaît. Pourquoi c'est une question de goût, c'est une question de rentabilité.
De rentabilité, ouais. De travail. Bon, le canard, on peut. On gave matin et soir pour pendant 13 à. Ça va de 13 jours pour du mulard à 15-18 jours pour du barbarie, en gavant que deux fois par jour. L'oie, c'est trois fois par jour. La première semaine, c'est quatre fois par jour. On fait la repasse, donc on gave et on revient regaver derrière, jusqu'à ce que le jabot soit fait. Et après, c'est trois fois par jour. Et ça dure 3-4 semaines.
C'est beaucoup plus long.
C'est beaucoup plus long. Pour un rendement en foie, un canard, on fait 600 grammes de moyenne en foie. Une oie, on fait 1 kilo. Mais la rentabilité et le prix du foie d'oie n'est pas en rapport avec le travail que ça demande. C'est pour ça que l'oie est tombée en désuétude depuis quelques années.
Eh ben, je trinque à la santé de l'oie, tiens, messieurs. Santé.
Santé.
Une grande figure du jazz nous a quitté, Georges Bonfils.
Une figure du jazz montalbanais, Manon Larocque, est né à Montauban en 1919. Bon, elle se préparait elle faisait des études de mathématiques. Puis elle racontait Jimmy Rena, qui faisait aussi des études de lettres, qui était pianiste de jazz. Et de leur rencontre dans les années 40, au début de la guerre. Jimmy était pianiste, dont il allait jouer à Toulouse, et elle, un jour dans un appartement qu'ils avaient à Toulouse, elle a trouvé une guitare et elle a commencé à apprendre à jouer un peu de guitare. C'est Macaque, un guitariste gitan, qui a accompagné Sacha Dissel, Lionel Hampton, Stéphane Grappelli, qui lui a donné le premier cours de guitare, et aussi Django Reinhardt, qui d'ailleurs lui a dédicacé un morceau qui s'appelle Mano et qui se trouve dans la compile complète des disques de Django Reinhardt chez Frémaux Associés. Mm-hmm. Donc Mano s'est mis à la guitare et toute sa vie, avec son mari, ils ont vécu de leur plaisir et de leur musique. Bon, après la guerre, tant qu'il n'y a pas eu les discothèques, les clubs utilisaient des musiciens de jazz, et puis après, avec le rock and roll, la mode des discothèques est venue. Et les musiciens de jazz se sont retrouvés un petit peu au chômage. Donc eux, ce qu'ils ont fait, tout simplement pour continuer leur métier, ils ont créé à Saint-Lary un club qui s'appelait Chandelle, qu'ils ouvraient l'hiver à partir de décembre jusqu'après Pâques, où ils faisaient la saison d'hiver en faisant leur musique et en faisant goûter des crêpes. Et l'été, ils étaient sur la Costa Brava, Calia de Palafrugelle, à partir du mois de juin jusqu'au mois de novembre, ou plutôt fin octobre, où ils animaient les nuits, en bord de mer et où ils ont pu continuer leur musique. Et ils ont continué. Jimmy Rena est décédé en 1995, mais elle a continué. Et même il y a 3 ans encore, elle avait 86 ans. Je l'ai rencontrée à 2h du matin. Elle avait un cigarillos, un verre de champagne, et elle chantait dans la soirée 2 fois 3 morceaux. Elle ne pouvait plus jouer de guitare parce qu'elle avait de l'arthrose, mais toute sa vie, elle a aimé sa musique. Et là, cette semaine, j'ai vu son neveu. Il m'a dit encore il y a deux ans, un soir, il dormait chez elle en pleine nuit. Ils ont été réveillés par le bruit. Elle était devant sa télé en train d'écouter un concert des Stones. À fond. Voilà, toute sa vie, elle a été bercée musique. Et même, on a été la voir il y a 15 jours avec des amis. Et elle était dans un hôpital et elle était en train d'écouter un disque de Louis Armstrong sur son lit d'hôpital. Donc, elle a joué avec beaucoup de musiciens. Elle a joué notamment avec Lionel Hampton, Memphis Lim, Thibonne Walker. Guy Lafitte a démarré chez eux. Il y a eu un célèbre violoniste français qui s'appelle Michel Varlop, qui est pas très connu du grand public, mais qui était du niveau de Stefano Grappelli, qui a été dans leur orchestre. Bon, ils ont vécu toute la vie de leur musique et puis ils ont joué pour le plaisir. D'ailleurs, là, on va écouter son dernier enregistrement. C'est un morceau, c'est un disque qui a été enregistré en 2002 en Espagne, à Palafrugell. Et elle, à l'époque, elle avait 83 ans. Bon, les doigts ne sont plus très, très, très véloces, mais il y a toujours l'ambiance et c'est l'ambiance de jazz qu'elle aimait.
Elle s'appelle...
Elle s'appelle Manon Larocque.
En train qu'à sa santé, Manon Larocque. À pouvoir attaquer.
Profite de la musique, l'ambiance chaude des nuits espagnoles de la Costa Brava avec Onos Col Rosa enregistré en direct à Calia Palafrugell au Club La Guitare.
On est un petit peu dans les dents. You need a sweet man. C'est de la rillette de canard de Monsieur De Gans que j'ai entre les dents sur un pain. Alors, on va essayer de présenter un petit peu tout ce que vous nous avez apporté, si vous le voulez bien. Et on va commencer par le pain, puisque autant commencer par ceux qui ne sont pas là. Hein. C'est un ami producteur à vous qui fabrique son pain.
Oui, c'est ça ? Voilà, oui, justement. C'est une personne de Montricou, je peux citer son nom.
Bien sûr.
Joël Souiri, on y envoie un petit coucou. Donc, à l'occasion, voilà, donc c'est un agriculteur qui a choisi depuis quelques années déjà de faire son pain. Voilà, il produit ses céréales, il fait faire de la farine et il transforme le pain chez lui.
Il fait la farine, bien sûr, au moulin de Moricou.
De Moricou, exactement, voilà. Exactement. Voilà. Et on peut aussi dire aussi qu'il se trouve en vente, sur Montauban, sur Caussade aussi. Mais sur Montauban, il est dans les magasins, les GIE du Carretou, qui sont au Carrerat, en face à la salle des fêtes.
D'accord. Voilà. Et à Caussade?
Et à Caussade, c'est une boulangerie, que je connais pas le nom, donc. Il y a le panneau au pain de la campagne, ça se voit si, largement, quoi.
Bon. Alors, là-dessus, évidemment, on a déjà étalé, quelques pâtés, quelques rillettes, et on va continuer d'étaler. J'ai un foie gras qui me tend les bras, il y a du coup là-bas, du coup farci. Alors, racontez-nous ce que vous nous avez apporté.
Racontez-nous la rillette.
Alors, monsieur De Gans.
Alors, c'est une rillette pure canard, que l'on fait déjà depuis pas mal d'années, qui a un franc succès. On l'a proposé au concours agricole à Paris en 2008 et on a remporté la médaille d'or. Donc c'est qu'elle doit se tenir à peu près. On a voulu se mesurer, voir avoir un repère avec la production nationale. Et bon, c'est vrai que le concours à Paris, bon là il y a la palette de toute la production française. Et donc bon, remporter une médaille à ce niveau-là.
On produit partout du canard, pardon.
Oui.
du vin.
Bon, un coup. Non, c'est assez régional, quoi. Il y a tout le sud-ouest, un petit peu. Et puis après, il faut pas oublier l'Alsace, voilà, que j'allais citer aussi. Voilà, c'est à peu près les deux régions essentielles.
Traditionnelles.
Traditionnelles, c'est que se trouve.
Parce que du canard, on en fait partout maintenant.
Maintenant, on en fait partout. Voilà. En Belgique.
Mais la Bretagne, c'est surtout l'élevage. Le gavage.
C'est ça, pas le gavage, non, mais l'élevage.
Le gavage, il y a un petit peu de gavage aussi en Bretagne, mais c'est essentiellement concentré sur tout ce qui est sud-ouest, Landes, Gers, Tarn-et-Garonne, bien sûr, voilà.
D'accord. On entend pas ce que tu dis.
Les producteurs, parce que moi j'ai déjà zappé 5 minutes là, donc. A-t-on parlé de l'association des producteurs? Il y en a combien de producteurs en Tarn-et-Garonne?
Non. Moi je voulais qu'on en parle, mais après, parce que je voulais qu'on continue de parler de ce qu'il y a sur la table.
T'arrêtes de parler, t'as la bouche pleine.
C'est vrai.
Moi un coup.
Donc on a cette rillette, médaille d'or, d'accord. Qu'est-ce que vous nous avez apporté d'autre?
Des magrets fumés. Magrets fumés de canard, qui est une spécialité de la maison aussi.
Ça m'a l'air.
Alors,
bien,
voilà. Explication sur le magret fumé.
On va faire une petite photo de ce magret.
Donc il n'est pas salé celui-là, comment
Si, c'est un magret de canard qui est transformé en charcuterie comme du jambon. Il est salé, légèrement salé, fumé, séché. Et donc on le déguste comme du jambon de pays.
Ça c'est rudement
Très parfumé, très bon le goût.
Ouais. Super.
Voilà, qu'est-ce il a aussi remporté une médaille d'argent, une médaille de bronze à Paris.
D'accord. Quoi d'autre?
Et après le foie gras,
après je vais prendre le relais.
Le foie gras
moi j'ai porté tout ce qu'on peut avoir avec un canard. Voilà, alors si on va par exemple sur les marchés du Tarn-et-Garonne, on peut acheter un canard sans foie ou avec foie comme on veut. Et voilà, j'ai amené après tous les produits cuisinés qu'on peut avoir, en commençant par le friton de manière traditionnelle, avec le gésier confit, le cœur confit, l'aileron, le manchon et la cuisse confite. Voilà un petit peu, on a... Les magrets, on les a laissés à part avec les aiguillettes parce que ça se cuisine différemment. Mais voilà tout ce qu'on peut faire avec un canard. Voilà.
Et si on commence par ce friton, comment on fait le friton de canard? Qu'est-ce qu'on met dans le friton de canard?
Dans le friton de canard, c'est très très simple. Quand on coupe le canard, on va garder les cuisses, ce que je vous ai montré là, les manchons, les ailerons, et puis tout le reste. On va mettre tout ça dans un chaudron avec la graisse qu'on a récupérée autour du foie. On va mettre ça à fondre. Voilà, on va remuer. Il faut fondre au moins 2 heures, bien comme il faut. Voilà, et puis après, au bout de ce temps-là, on égoutte avec, bon, on fait cuire aussi le confit, évidemment, à l'intérieur.
Ouais. Et ah oui, tout, voilà. Tout est cuit dedans.
Tout est cuit,
tout le
est cuit.
Le goût et tout aussi.
Tout est cuit dans la graisse. Voilà, exactement. Ouais. Tout est cuit dans la graisse. Et au fur et à mesure, suivant la grosseur du morceau, bon, on retire un petit peu les morceaux les plus petits en premier, puis après on termine par les cuisses. Et à la fin, on égoutte, on va séparer à l'aide d'une passoire, on va séparer tout ce qui est graisse de viande restante, et c'est avec ça qu'on va faire le friton. Voilà, donc vous avez là...
Alors, là j'y suis sur le friton, j'attaque.
Le friton, dans le friton.
C'est mieux que d'être dans le pâté.
Voilà.
Dans la rillette.
Le friton, c'est un petit peu, c'est très traditionnel. Chaque cuisinier ou cuisinière aura sa touche personnelle. Parce que.
Parce qu'on met des épices quand même.
Non. Parfois, enfin, ça, c'est le poivre, c'est tout.
C'est le poivre.
Voilà. C'est le poivre, oui. On l'aromatise de différentes façons. Et ça, c'est un peu la marque de fabrique.
On va pouvoir rajouter de temps en temps, je parle du piment, des spelettes ou des choses comme ça, non?
C'est pas venu à l'idée. Ça,
je suis sûr que dans la région béarnaise, ça doit se faire. Ouais.
Je sais pas si vous savez, mais sur le marché du samedi, le marché des producteurs à Montauban, vous avez une dame d'Albias qui s'appelle Madame Pagès.
Oui.
Que vous devez connaître.
Voisine.
Et Madame Pagès, elle amène, donc elle fait le meilleur friton du monde. Elle amène à peu près, moi je vais dire, elle amène 7-8 kilos, voire 10 kilos de friton. Alors elle fait, elle y met, sauf les magrets, elle y met tout.
Voilà, ouais.
Et elle vend tout sur le marché des producteurs le samedi à Montauban. Il y a une queue.
C'est vrai qu'il y a une queue assez impressionnante devant son
stand. Mais alors, ils sont particulièrement excellents. Pourquoi elle les fait au chaudron?
Est-ce qu'elle fait partie de l'association des producteurs?
Je ne sais pas.
Bien sûr.
Oui, elle fait partie, Madame Pagès.
Oui. De toute façon, c'est ce qui est intéressant un petit peu, comme vous citez le marché de producteurs. Le friton, vous allez aller chez une personne, il va avoir un petit goût, très bon évidemment, mais chez l'autre personne aussi, parce que une personne va tout y mettre. Bon, moi j'ai retiré les confits, mais ça ce sont le choix de chaque préparatrice, quoi. Donc, voilà.
Mais en fait, une belle de préparatrice.
Comment ça? Vous dites qu'il n'y a que des femmes qui font le...
Chez moi, essentiellement, oui. Parfait.
La suite de Qu'est-ce qu'on déguste, spécial foie gras, monsieur dame, c'est juste après ça.
Retrouvez Qu'est-ce qu'on déguste avec Biosol, épicerie bio, avenue Gambetta à Montauban. Biosol, la nature chaque jour dans votre assiette.
Bonjour, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on déguste ?
C'est préparé comme du jambon, ça ressemble à du jambon quelque part. C'est épais comme du jambon, c'est souple comme du jambon. Donc le goût magret. C'est bon. Alors, si vous prenez le train en marche, sachez que c'est l'émission Qu'est-ce qu'on déguste. On est plutôt pas mal autour de cette table. Il y a Georges Bonfils, bien sûr, Pascal Olivier, tout va bien les gars. Christophe Bory, Fabien Martinet, bonsoir. Tout le monde a la bouche pleine pour essayer d'interviewer, tant bien que mal, deux producteurs de foie gras du Tarn-et-Garonne, membres de l'association des producteurs de foie gras du Tarn-et-Garonne, allant... De Gans, Alain de Gans, voilà, pardon, et Claude de Mourgues. Le premier est à
Albias,
merci, et le deuxième est à Puy-Corné. J'ai jamais mis les pieds dans votre ferme auberge. Comment
ça fait que 2 ans qu'on a ouvert. On est ouvert le samedi soir et le dimanche à midi. En ce moment, on est ouvert que le dimanche, et là, on ferme, on fait le dernier repas le dimanche 12, et on rouvre après que le 15 janvier.
C'est pas compliqué, disons,
si, ça fait des semaines bien garnies, là, ça fait 2 mois où c'est qu'avec la récolte des châtaignes, les conserves, la ferme auberge. On tourne à 60-70 heures par semaine.
On
ne s'ennuie pas.
Et vous, ça vous branche pas de faire un peu ferme auberge, Claude Morgan? Non. Non. En plus du bœuf, de la découpe.
Non, ça va, ça nous suffit. Ça va comme ça. Le temps est bien complet. Et voilà, donc en plus, discuter un petit peu, il faut bien prendre 5 minutes pour discuter avec nos charmants clients et clientes qui viennent nous rendre visite. Donc voilà, il faut bien... faire tout quoi.
Mais les ventes de foie gras pour les uns et pour les autres, ou de produits, des confits, etc., c'est local, vous expédiez, ça marche comment? Vous faites connaître comment les marchés, comment d'entreprises.
On a une clientèle depuis 30 ans, on a développé une clientèle nationale où c'est qu'en ce moment, bon, on a les commandes qui. Les retours de tarifs avec les commandes, on expédie au niveau national, mais on a une grosse clientèle locale et qui nous suit tout au long de l'année.
Et qui vient chercher chez vous.
Qui vient chercher à la ferme.
À la ferme. Alors, vous êtes bien passé, vous êtes sur le RN20. Donc,
voilà. Pas tout à fait pareil.
Et à Puy-Cornet, on y va comment à Puy-Cornet?
À Puy-Cornet,
avec le GPS.
À Pierre, mais oh, oh.
Non.
Est-ce qu'on prend le car?
Puy-Cornet est à seulement 10 minutes, un quart d'heure de Montauban. C'est vraiment sur la route de Molière. Voilà, c'est vraiment pas très très loin de Montauban. Non, c'est tout à fait différent. Nous, on a une clientèle uniquement locale, quoi. Excepté, évidemment, quelques personnes qui viennent de très loin, de Marseille ou d'ailleurs de Bordeaux, je ne sais où, que j'ai pas mémoire maintenant, qui font l'aller-retour pour venir chercher
les
produits.
Donc, ils viennent chercher en frais, on leur met ça dans le coffre de la voiture et ils repartent.
Exactement. Hein, et ils font avec les produits tout ce qu'on a amené ce soir, là, qu'on est en train de déguster. Voilà, ça sert à préparer des frittons, des confits.
On va se calmer, on va envoyer la musique, on va attaquer le foie gras, on va trinquer au domaine de Ganap, c'est du fronton.
C'est du vigneron du Quercy.
Ah non, vigneron du Quercy, pardon.
Voilà, c'est fronton de Quercy.
Bon, je dis n'importe quoi.
Arrêtez-le.
Ah, mais je suis obligé de vous arrêter parce que sinon on parle et on déguste pas. Barbra
Streisand. Bonjour dans la salle.
Oui, on peut parler sur cette musique parce qu'on parle sur le jazz et.
De toute manière, on parle. Alors moi, quand même, je vous dis.
Le jazz du gésier.
Oui. Avant de déguster ce précieux produit,
d'accord.
J'aimerais.
Non, mais
savoir que le foie gras. C'est un produit qui n'est pas malade, c'est pas un produit malade. J'aimerais juste faire un petit rappel sur le foie gras. Qu'est-ce que c'est le foie gras?
Ah, mais attendez, bougez pas parce que on y arrive. Vous n'avez
pas. Oui, non, mais je vous voyais avec votre couteau.
Non, allez. Mais attendez, je veux patienter. Barbra Streisand.
Non. On va partager, voilà.
Ah, ça c'est pour moi.
Barbra Streisand.
La danse des canards.
La danse des canards, ouais.
C'est une ânerie signée Armin Van Elden, des plus grands DJ new-yorkais, qui vient de signer ça avec un ami à lui. Ça passe sur toutes les zones à l'heure actuelle. Ça doit être joué dans toutes les discothèques. Voilà, c'est Duck Sauce, le morceau Barbra Streisand. C'est idiot, mais c'est rigolo.
Qui goûte un peu de feu de rillettes, alors pour mettre un peu de gras dans son truc.
Et Duck Sauce et Duck, en plus, ça veut dire canard en anglais.
On dirait pas, mais tu travailles. Tu travailles.
Oui, j'ai travaillé.
C'est une émission très travaillée.
Bon, on m'a encore piqué mon gésier. Moi.
Bon.
L'animateur me pique le gésier.
C'est vrai que c'est important.
Le moment est grave.
Oui, parce que Claude Moore m'a empêché de prendre une tartine de ce foie gras. Parce qu'il voulait quelques précisions avant qu'on attaque effectivement ce précieux produit, comme il l'a appelé sur la musique là à l'instant. Le foie gras, les Américains nous l'envient pas du tout. Hein, quelques Américains luttent parce qu'ils aimeraient bien l'avoir, mais enfin la plupart ils trouvent qu'on fait du mal aux bêtes et que c'est un foie malade qu'on mange et que donc
est-ce
forcément.
Il y a déjà un canard qui s'est plaint.
On va se rendre malade en mangeant un foie malade déjà et puis on a fait du mal à la pauvre bête. Voilà, c'est ouais, ça au départ.
Voilà, mais je pense qu'il n'y a pas que les Américains qui pensent comme ça. L'Europe,
L'Europe aussi.
L'Europe aussi fait. Mais moi, j'invite personnellement tous ceux qui pensent qu'on fait mal aux bêtes à venir voir dans la ferme exactement le rapport qu'on a avec les animaux et comment on les traite. Parce que vraiment,
on ils fait. Ils sont pas syndiqués chez vous, les canards.
Pas encore, pas encore. Il n'y a pas de minimum syndical, mais
bon. Voilà. Comment est-ce que vous les gavez avec le pistolet à air comprimé?
Non, en fait, non. Disons que c'est le gavage, c'est très technique. C'est bon, c'est pas donné d'abord à tout le monde parce que c'est un geste très très précis, aussi précis, par exemple, que je sais pas une opération, parce que quand on met ce fameux bec que tout le monde dénigre, voilà.
C'est ça l'embucaire.
Voilà. Voilà, c'est l'imbuc. Il y a une technique bien particulière pour ouvrir le bec et justement pour pas faire mal au canard. C'est tout le but recherché parce que un canard qui est malheureusement abîmé par un mauvais geste, ça y est, il n'ira pas au bout du gavage. Donc le gaveur a tout intérêt à faire des gestes bien précis en ouvrant le bec, en enfilant l'imbuc, on appelle ça comme ça chez nous, dans le jabot du canard. Voilà, c'est un geste très 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 précis. Voilà. Et en plus, ce que je voulais ajouter évidemment, c'est que le canard, c'est pas une bête malade, le foie gras non plus. Par exemple, si vous prenez un canard qui est en fin de gavage, c'est-à-dire à peu près comme on disait tout à l'heure, entre 13 et 15 jours, vous le relâchez, vous le remettez en liberté, le canard va arrêter de manger pendant quelques jours parce qu'il a fait des réserves. Un canard gras, c'est une bête qui fait des réserves, qui accumule des graisses. À l'origine, pour la migration.
À l'origine, pour la migration.
Voilà, ouais, c'est pour ça qu'on gave, partir à l'étranger. On gave le canard et l'oie uniquement parce que ce sont des seules bêtes qui sont capables d'avoir, d'emmagasiner autant de graisse.
Le rouge-gorge, ça aurait été plus difficile.
C'est exactement, exactement. Le voilà. Et le foie gras, ce n'est pas du tout quelque chose de malade. Un foie malade, c'est un foie qui a emmagasiné des graisses. Des graisses, tout simplement, voilà. Et si vous le remettez à liberté, n'importe qui peut faire cette expérience-là. Il va chez un gaveur, il prend un canard, il le remet à liberté. Le canard va repartir et ne va pas mourir du traitement qu'on y a fait. Et en plus, on gave dans des caisses individuelles qui, en gros, aujourd'hui, c'est un gros sujet. Parce que normalement, l'Europe veut nous interdire ce principe de gavage dans 5 ans. Moi, j'invite aussi.
C'est-à-dire, ça veut dire quoi, gaver dans des caisses individuelles?
Voilà, c'est-à-dire que. Le canard est dans une caisse, quand on le rentre dans le parc, le canard, on le met dans une caisse individuelle, qui a été étudiée
pour. Comme une cage, quoi.
Comme une cage, voilà. Mais la cage, on n'a pas fait une cage comme ça, n'importe comment.
Pas comme les poulets en batterie où ils ne peuvent plus bouger, non?
Oui, non, mais ce n'est pas une question de ne pas vouloir bouger, parce que le canard, il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut le gaver, il faut qu'il accumule des graisses. Donc il faut des conditions pour accumuler des graisses. Donc si on le met un canard
à la télécommande, il regarde la télé son canard.
Voilà. Donc ça se passe pas tout à fait comme ça. Quoi.
Pas qu'il bouge.
Voilà, il faut pas qu'il bouge trop. Il faut pas qu'il fasse trop d'exercices. Et là, on limite la durée de gavage. Et bon, et tout le monde se passe bien. Parce qu'un canard qui est abîmé ou qui a eu un mauvais gavage, il y aura pas de bons résultats. Et chaque gaveur a aussi ses résultats. Tout le monde, on s'improvise pas gaveur. Je veux dire, moi, demain, gavé, il va peut-être pas y arriver tellement que le geste est précis et technique. Quoi. Ben, voilà.
Le problème souvent, c'est est-ce que la bête est stressée? Est-ce que la bête, elle est malheureuse finalement pendant toute cette durée-là?
La bête, moi j'invite tous les gens à venir voir et c'est vrai. Il faudrait que les gens aillent davantage voir les gens quand on gave. Moi, j'invite quiconque.
C'est journée porte ouverte chez Mourgue.
Non, parce que oui, mais on trouvera un peu de travail aussi à faire. Mais
est-ce que
il faut que les gens se rendent compte de l'acte avant de critiquer ces choses-là, parce que c'est vraiment quelque chose de tout à fait doux.
J'irai dans votre sens. Vous savez, par exemple, le chapon, c'est devenu très à la mode. Bon. Un chapon.
J'ai le droit d'attaquer.
Un chapon, chapon, et une poule chapon, et un chapon, chapon pas. Bon. Mais un chapon, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est vachement à la mode, mais un chapon, c'est châtré à vif.
Oui.
Hein, sans anesthésie ni rien. C'est recousu à vif. Et ensuite, c'est élevé dans des cages individuelles.
Pas dans le Tarn-et-Garonne, très peu.
Non, mais peut-être pas dans le Tarn-et-Garonne, mais dans les exploitations où ils font ça, c'est élevé dans des cages individuelles où ils voient pas le jour. Et normalement, traditionnellement, le chapon, il était mis dans une cage en bois au fin fond de la remise, au noir, et il était gavé, enfin entre guillemets, avec du pain, du lait, du son, des choses comme ça.
Et bon,
on lui a jamais demandé son avis, et pourtant c'est peut-être plus stressant pour lui qu'un canard.
Voilà. Moi, je suis aussi producteur un petit peu, mais très petit, de chapons. Donc, c'est moi-même qui opère les chapons et
là, nous. Chaponner.
Voilà, on chaponne, comme on dit. Et là, ils sont, nous, c'est tout à fait, chacun agriculteur a ses méthodes d'élevage. Nous, ils sont finis uniquement au maïs et à liberté. Donc, c'est aussi notre moyen d'engraisser. Parce que, qu'est-ce qu'on recherche quand on engraisse l'animal? C'est du goût. Parce que vous prenez un poulet maigre, sans graisse, ça a un goût. Et un poulet bon, qui est devenu par l'opération un chapon, avec la graisse qui forme la cuisson, ça donne une viande qui n'est pas sèche et avec un goût tout à fait différent. Voilà. Donc,
mais en tout cas, au niveau stress...
Il y a plusieurs systèmes pour y arriver. Quoi.
Le stress du chaponnage de la méthode traditionnelle est beaucoup plus important sans doute pour la bestiole que, que pour le canard.
Mais, et le chaponnage, si on peut dire deux mots dessus, c'est que c'est une longue préparation comme la préparation d'un humain. On le met sous antibiotiques pour pas qu'il ait des maladies. On le met en jeûne 48 heures avant. Attendez, c'est une grosse, grosse préparation. On fait pas ça non plus à main levée.
On peut vous voilà. commander des chapons On peut vous commander des chapons.
Il reste encore quelques
heures.
Ah,
passer commande.
Si on vient de chez moi, moi, enfin, je me rappelle quand j'étais petit, le foie gras, c'était vraiment le produit de luxe qu'on trouvait très peu. Enfin, ça avait vraiment une image. Enfin, c'était pour les fêtes de Noël et chez les gens qui avaient les moyens. Aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'on en trouve plus toute l'année, à prix plus abordable. Vos ventes, c'est quelque chose que vous constatez ou pas?
Bien sûr, le foie gras est devenu une consommation un peu plus courante de nos jours. Aujourd'hui, dans le Tarn-et-Garonne, il y a des gens qui se sont équipés, et j'insiste sur le mot équipés, pour gaver toute l'année, pour reconstituer l'hiver, si on veut, en plein été, quoi. Donc, voilà, et c'est pour ça aussi que sur le marché de Montauban ou de la région, si on est pour parler de Tarn-et-Garonne et de l'association des producteurs de Tarn-et-Garonne, il y a des gens qui gavent toute l'année, qui ont fait un équipement, des efforts considérables pour faire l'hiver en été, quoi.
Mais c'est pas pour ça qu'ils vendent le kilo de foie gras plus cher.
C'est pas pour ça que malgré tous les équipements et tous les investissements qu'ils ont réalisés, ils vont pas vendre le foie plus cher.
En moyenne, sur le dernier Garonne, le kilo de foie gras, ça coûte quoi? Enfin, bon, foie gras. Alors, frais ou en boîte? Enfin,
je vais vous dire en frais, puis après mon collègue vous dira en boîte. Donc,
ça, c'est, on va faire du teasing un peu.
La suite au prochain numéro.
Voilà, t'as toujours le tu vois, le chic pour poser la question de trop.
Et voilà.
Santé.
Alors. Je n'étais pas trop bon.
Vers vide. Enfin. C'est la mode des smartphones, c'est la mode de toute manière. Tout le monde a aujourd'hui un smartphone, un iPhone, un téléphone qui lit internet autour de la table. Tout le monde, tiens, Georges a un iPhone, Fabien a un iPhone, moi j'ai un smartphone. Toi t'as quoi? Toi t'as un Nokia tout pourri.
Moi aussi.
Mais ça c'est le côté bobo. Comme tout le monde en a, il en veut
pas plus que pourri. Mais au moins il téléphone. Je suis pas en panne quand il y a des mises à jour chez Apple.
Oui, mais alors certains font plus que téléphoner, certains jouent avec leur téléphone portable.
Oui. Donc ce soir,
tartine.
Ça n'empêche pas. Ce soir, je vais vous parler d'Islandia. Donc Islandia, il a deux particularités. Islandia, c'est le premier jeu de rôle type MMORPG sur iPhone. Donc MMORPG, on va passer les trucs barbares. C'est du jeu de rôle où les gens, c'est vraiment en ligne, donc on n'est pas censé jouer tout seul devant son écran, c'est en ligne, et avec des milliers de joueurs ou des millions de joueurs pour ceux qui marchent mieux. En communauté, on s'associe avec les autres, on partage les aventures. Donc sur iPhone, c'est le premier vraiment de cette taille qui reprend tous les principes du MMORPG. Et la deuxième particularité, c'est qu'il est français, c'est Moving Player qui fait ça. Donc Moving Player, on dirait pas, mais c'est une société française. Ils ont développé, ils avaient tous des boulots, ils sont dans le jeu vidéo, dans le design, dans le dessin. Et pendant 2 ans, les soirs, les week-ends, ils sont réunis jusqu'à monter leur boîte et sortir leur jeu qui s'appelle Islandia. Alors qu'est-ce qu'il a de sympa Islandia en plus d'être le premier et d'être français? Déjà, il n'y a pas d'abonnement. Il ne coûte qu'1,59€, donc les gens qui ont un iPhone, vous allez sur l'App Store, pour 1,59€, vous achetez le jeu. Il n'y a pas d'abonnement, vous n'avez pas à payer pour avoir des nouveaux objets, des épées. Voilà, 1,59€, c'est fini. Après, il y aura peut-être des extensions qui vont sortir dans le même ordre de prix une fois par an, type mise à jour. Et autre particularité, ils ont évité les poncifs du genre les nains, les elfes, les gentils, les méchants. Ils ont vraiment recréé tout un historique du monde. Ils ont créé une planète où c'est les îles, donc les joueurs jouent sur différentes îles de différentes tailles, et ils ont recréé toute une mythologie, l'histoire du monde, quelles sont les races. Donc c'est un jeu entièrement original.
On y mange du foie gras, non?
Non, là pour l'instant ils se sont orientés beaucoup sur les parties quêtes et combat, il n'y a encore pas justement la vie au quotidien, ou les gens qui pourraient, comme dans certains jeux, avoir des plantations, ou faire
des
bois.
Parties fines.
Pas encore non plus, mais après chaque joueur fait ce qu'il veut, là ça regarde les joueurs. Voilà, donc c'est vraiment à tester. C'est ils ont vraiment développé aussi la difficulté, c'est que c'est sur iPhone, donc on n'a pas de joystick, on a un tout petit écran.
Mais donc on est quand même connecté, il nous faut une connexion.
Il faut être soit en Wi-Fi, soit en 3G, il faut être connecté à Internet, comme on veut. Eux ils touchent rien dessus, donc
oui,
c'est
donc
la connexion.
Ça va être complètement gratuit si on est en Wi-Fi.
Ah oui, on est en Wi-Fi, on paye, c'est 1,59€ et c'est fini, il n'y a plus aucun frais. Et ils ont vraiment prévu l'interface pour qu'elle soit jouable depuis un écran d'iPhone avec les boutons qui n'apparaissent que quand on en a besoin, on peut tout reparamétrer, il y a une grosse recherche là-dessus. Au niveau design et histoire, ils ont vraiment beaucoup bossé. Ils continuent à faire évoluer le monde. Donc, ils n'ont pas acheté un produit en disant, voilà. Il y a déjà plus de 40 000 joueurs dans la communauté. Et c'est en extension régulière. C'est en France et ils commencent à attaquer l'étranger. Le jeu est entièrement en français, donc. L'interface, le site web, c'est islandia.net. Y-S-L-A-N-D-I-A.net. Entièrement en français aussi. Donc, allez-y pour 1,59€. Franchement, n'hésitez pas. Ça vaut le coup.
Ce qui vous dit pas, c'est que c'est lui qui l'a fait.
Pas du tout, pas du tout. Et après, il devrait en plus essayer de le porter sur d'autres téléphones que l'iPhone pour étendre la communauté.
Je pourrais l'avoir sur mon Nokia.
Ils essayent.
D'accord. Qu'est-ce que c'est que je suis en train de boire, Georges, au secours?
C'est un blanc doux, un vin de pays. Comté Toulousain du domaine de Calories, millésime 2005. Bon, c'est le Fronton n'a pas le droit à l'appellation pour les vins blancs, mais c'est dans le vignoble du Frontonnet, à côté du rouge et du rosé, en vin de pays Comté Toulousain.
D'accord.
Et c'est un vin doux qui est assez parfumé. Il est pas mal du tout.
Il est pas mal. Il est pas mal. Est-ce que, je suis assez étonné, messieurs les producteurs de foie gras, de vous voir. Alors, évidemment, vous nous avez apporté une bouteille de vin des Coteaux du Quercy. Donc vous le buvez, mais je suis assez étonné de vous voir boire du vin rouge finalement avec du foie gras. Non mais c'est le grand truc maintenant, c'est le, on nous gave tous, enfin pas. Pardon, faire gaffe à ce qu'on dit. Avec le fait qu'il faut boire du vin blanc liquoreux sur le foie gras. Comment vous le vivez vous en tant que producteur de foie gras et qui en mangez depuis
Il y a quelques... Maintenant, c'est vrai qu'on va plus vers le doux, moelleux, tout ça avec du foie gras. Mais nous, plus traditionnellement, on était habitués à boire du rouge, à pas changer de vin. Bon, maintenant, c'est surtout les dames qui boivent moins de rouge en général et apprécient beaucoup mieux le moelleux.
Un gros penchant pour le vin doux.
Ouais. Le vin blanc. Voilà. Et on est obligé de suivre ces dames, évidemment.
Il y a un siècle et demi ou deux siècles, on buvait du Porto sur le foie gras. Dans les verres sur une table, on mettait tous les verres et le verre à Porto, justement pour accompagner le foie gras.
Alors justement, moi j'y suis sur ce foie gras là. Vous voyez, je suis en train de l'étaler sur une tranche de pain de notre ami, comment Joël, s'appelle-t-il à mon
Joël, Joël Souiri.
Bravo, il est super bon ce pain, franchement, il est vraiment terrible. Et alors le foie gras aussi, il est... Qu'est-ce que c'est qui fait...
Alors c'est du canard ça, c'est du canard ou c'est du barbarie.
Qu'est-ce qui c'est qui fait le foie gras, l'astuce, c'est
l'assaisonnement,
c'est quoi?
Le foie gras c'est la rapidité de transformation de la mort de la bête à la pasteurisation du produit. Après c'est une question de classification du foie. Le foie il faut qu'il soit suffisamment gras. Plus le foie est gros, plus il a tendance à fondre.
Est-ce qu'il a un goût différent selon ce que la bête a mangé?
Chaque canard a un foie qui a un goût différent. Il y a bien aucun, sûr. Il y a pas deux foies identiques.
Et c'est pas en fonction de ce qu'il a mangé.
Non, c'est dans le même lot. Il y a ça.
Personnellement, on n'a pas d'explication. Chaque foie se ressemble, mais pas forcément identique.
Il n'a pas le même goût.
C'est ce qui fait un petit
couleur.
Peu le charme du foie gras. Voilà, du foie gras entier, évidemment, comme celui-là. Parce qu'après, dès qu'on passe sur du bloc de foie gras, c'est tout à fait différent.
Oui, après, bon, il y a le foie, ce qu'on appelle le foie de Parisien, quoi. Hein, c'est du foie reconstitué. C'est un assemblage de foie gras. Voilà, rond.
Il fait des kilomètres.
Voilà. C'est le bloc de foie gras. Bon, c'est que du foie, mais c'est un ensemble de foie qui a été trituré, travaillé sous vide.
Celui qu'on trouve chez Fauchon à Paris, ouais. Ils sont contents, les Parisiens. Oh, ouais, j'ai acheté un foie gras, 90 euros le truc.
Alors, c'est la facilité de, et la rapidité de gavage. C'est quand même plus compliqué de gaver une oie que de gaver un canard. Et le canard a explosé, la demande est là.
L'histoire de goût, c'est
pas
l'histoire
de goût.
Al-Jadi, tout ça.
C'est l'histoire de prix aussi. Parce qu'aujourd'hui, le foie gras se négocie à un prix et le foie d'oie. se négocie à quoi 20%, 30% plus cher normalement. Ce qui explique tout à l'heure ce qu'on disait au niveau du travail. Voilà, donc,
ça n'est pas aussi rémunérateur de faire de l'oie que de faire du canard.
Et vous, en tant que producteur, donc si on oublie, je ne parle pas là, du rendement que vous avez, de l'argent gagné ou des quantités, mais à goûter, comme vous produisez, que vous goûtez les deux, entre le foie gras de canard et d'oie.
Qu'est-ce que vous préférez ?
Les deux sont bons. Le foie d'oie, le foie d'oie,
non, une, si, si.
Le non, foie non, d'oie non. a une petite amertume en fin de goût. On a une petite amertume sur le foie d'oie qu'on retrouve pas sur le canard. Mais bon, c'est deux produits.
Peut-être un peu plus de finesse dans le
un peu plus de finesse dans le foie d'oie, mais c'est deux produits qui sont esthétiquement ressemblants, mais qui ont quand même des caractéristiques différentes au niveau gustatif.
Tu veux regoûter pour un sujet de loi ?
Je vous laisserai reposer votre question sur ce qu'on est en train de manger, effectivement. Est-ce que c'est un foie gras d'oie ou un foie gras de canard ? Mais par contre, dans la préparation, donc il y a souvent les foie gras mi-cuits, les...
Mais ça, c'est une chance pour nous. Plus il y a de recettes, voilà, plus chacune trouve la sienne.
Il y a beaucoup de
donc,
recettes.
Donc voilà. Le foie poêlé, voilà. Donc il y a une multitude de recettes. Le foie cru aussi, cuit par le sel. Enfin, je peux pas toutes les citer parce que bon, je les ai pas en mémoire. Mais il y en a une multitude. C'est
qu'est-ce
une très,
que vous
très
faites
bonne
vous, par exemple comme produit
On fait du mi-cuit, on fait du semi-conserve et j'ai fait pendant des années de la conserve que j'ai arrêté. Parce que la conserve, bon, on a des impératifs techniques qui nous sont imposés par la législation. Donc on est à 105 degrés pendant une heure sur un foie, on sèche le foie. La cuisson sèche le foie. Et donc un foie conserve, bon, il faut attendre quelques mois avant de le déguster parce qu'il il faut qu'il se refasse. Plus on monte en température un produit et plus on le déstructure, donc plus il met de temps à revenir recaler tous ses goûts. Donc le semi-conserve pour nous représente plus de 90% de nos ventes de foie.
Semi-conserve,
mi-cuit. C'est un foie, c'est pas du mi-cuit. Non. C'est un foie qui est cuit comme on faisait, comme j'ai vu mon arrière-grand-mère, ma grand-mère.
Dans un bocal, quoi, en fait.
C'est le bocal, c'est cuit
bocal.
À limite d'ébullition. Et on
mais il faut le garder au froid.
Et il faut le garder au froid. Mais c'est un produit qui est entre la conserve et le mi-cuit.
Si on veut aussi du mi-cuit. Sahara, si on veut traverser le Sahara, il ne faut pas acheter du mi-cuit.
Il ne faut pas acheter de la semi-conserve.
On le sait. Donc ceux qui partent au Sahara, prenez de la conserve, du foie gras conserve et pas du foie gras semi-conserve.
On est pas mal. Alain Degans, Claude de Mourgues, tous deux producteurs de foie gras de l'association des producteurs de foie gras du Tarn-et-Garonne sont nos invités dans Qu'est-ce qu'on déguste. Ce soir, on se retrouve après ça.
CFM.
Retrouvez Qu'est-ce qu'on déguste avec Biosol, épicerie bio, avenue Gambetta à Montauban. Biosol, la nature chaque jour dans votre assiette.
Qu'est-ce qu'on déguste, la suite ? Ça commence à s'accumuler, c'est plutôt pas mal.
Il y a des munitions.
Autour de la table, Georges, Pascal, Fabien, Christophe, votre serviteur Aurélien aux manettes. On a avec nous ce soir deux producteurs de foie gras du Tarn-et-Garonne, Alain Degans et... Claude Mourgues, le premier et... Le tenancier de Lambucaire, c'est ça, hein, c'est la ferme Lambucaire à Albias. Le second, c'est l'URL Mourgues. Ça pose Mourgues. En même temps, vous avez un nom qui est du coin. Hein, vous pouvez pas dire que vous êtes pas d'ici, quoi.
Ouais. Hein, non, ils vont faire du chasse-là aussi. Bien sûr, mais à plus qu'on est, il y a que des bonnes choses et que de gentilles personnes. D'ailleurs, je profite, je peux, c'est le moment de passer un petit coucou.
C'est le moment.
C'est le moment. Voilà, mais je passe un petit coucou à toutes les personnes avec qui je travaille le vendredi. Voilà, j'espère qu'elles se reconnaîtront et tous ceux qui écoutent la radio aussi.
Et moi, je bois leur santé.
Voilà.
Alors, Chine,
Voilà.
Qu'est-ce qu'on écoute pour démarrer cette dernière demi-heure d'émission? De la salsa?
Allez.
T'as faim de la salsa?
Oui. Donc que l'hiver, c'est bien.
Non, mais si tu parles pas dans le micro.
Ah oui, mais on a pas des micros, c'est sensible. près des micros, comme ils ont à la télé.
Salsa.
Salsa.
Alors moi je veux... C'est ça que je veux, c'est vachement bien ça, le...
Le confit froid.
Le confit froid, c'est énorme, c'est énorme. Hop là.
Ça vaut presque le gésier, mais pas encore.
Ah mais ça, le confit comme ça, là, émincé sur une salade, c'est presque aussi bon que le gésier. Donc un bon confit, ce serait aussi bon que mauvais gésier.
Oui. Ouais. Il a cagué. Le bouchon, il a cagué. Petite salsa, une petite salsa de Oscar de León, qui est un salsero du Venezuela. Je trouve que c'est bien l'hiver d'écouter de la salsa, ça file du soleil dans le cœur.
C'est clair. Messieurs Desgans et Mourg, vous êtes ce soir les représentants de l'association des producteurs de foie gras du Tarn-et-Garonne. Voilà. Combien êtes-vous dans cette association ?
Alors, on est une trentaine à défendre les couleurs de Tradition Foie Gras sur le département.
C'est un label Tradition Foie Gras.
C'est un label, c'est un cahier des charges où c'est qu'on respecte la tradition du canard gras. Par contre, on a le département, le foie gras, enfin le foie gras, le gavage, le gras fait vivre 320 exploitations et représente un chiffre d'affaires trois fois celui du vin. Est supérieur à celui du... Alors, je regarde mes fiches. Est supérieur à celui du blé et également à celui du lait.
Donc, on fait du blé
donc,
avec...
on fait du blé avec du gras.
Voilà.
Ah oui, c'est quand même donc un...
Oui,
économiquement,
c'est très
important.
Ça fait partie des poids lourds du département.
Oui, ouais, c'est une filière...
Oui, c'est une filière qui est c'est une filière qui permet à des petites exploitations de vivre. Bon, on n'a pas les plaines, enfin les plaines, les grandes surfaces comme dans le Gers où il y a des surfaces énormes. Alors, de céréales.
Oui, mais pardon, mais par exemple, on parle souvent ici des œufs. Vous savez, les œufs de poule, vous allez comprendre où je veux en venir.
Les vrais œufs de poule.
Les œufs de poule, quand on les achète, il y a des petits tampons dessus où il y a marqué 0FR, 1FR, 2FR, 3FR, pour savoir si l'œuf il est sorti d'une poule élevée en plein air ou d'une poule
élevée en machine.
Élevée en batterie. Mmh. Voilà. Si le poulailler, en gros, il a 15 millions de poules ou s'il en a 250, quoi. Mmh. Et donc j'en viens là au canard. Est-ce que dans les exploitations qu'il y a en Tarn-et-Garonne, est-ce qu'on trouve des exploitations de différentes tailles, voire des exploitations industrielles ?
Alors des exploitations industrielles en canard, non, je pense pas dans le département, à ma connaissance.
Ouais, il y en a pas dans l'association.
Dans l'association, il y en a pas. Ce sont des exploitations qui travaillent en saisonnier. On fait du canard gras de fin septembre au début octobre jusqu'à fin mai, bon, à période classique du gras. Après, bon, il y a quelques producteurs qui, mais des petits producteurs qui font du frais, qui se sont, comme disait Claude, qui se sont équipés pour avoir des salles qui permettent de gaver en période chaude, de manière à avoir une production. Bon, comme ils vivent que du gras, bon, ils peuvent pas se permettre de rester plusieurs mois dans l'année sans revenus. Donc, ils ont équipé leur installation de manière à pouvoir produire du carne à gras toute l'année. Mais c'est toujours dans la tradition, c'est-à-dire de bêtes qui sont élevées.
Et les ateliers très modestes aussi.
Les ateliers très modestes.
En permanence, il y a combien de personnes?
Ils font 60-80 canards par semaine.
Ça reste familial. Un employé peut-être, mais ou deux, mais ça reste tout à fait familial. Quoi. Voilà.
Et alors, mon collègue tout à l'heure, Pascal, vous posait la question de savoir quel était un peu votre vos moyens de diffusion, de commercialisation. Vous êtes plus donc en local.
Chez nous, on est plus en local, quoi. On va sur le marché de Montauban, demain. Et puis après, on allait aussi sur le marché de Caussade. Le lundi, le mardi, Valence. Donc on a aussi de très très bons marchés. Aussi que j'invite tous les gens à aller se rendre et demander des conseils.
Du morgue.
Que les consommateurs n'aient pas peur d'aller poser des questions, d'aller discuter avec. C'est l'occasion aussi, pas que d'échanges financiers, c'est aussi l'occasion de discuter avec le producteur, le consommateur. Il peut demander, c'est un moment d'échange aussi.
Il peut avoir une recette, le producteur peut lui donner une recette.
Et sur les marchés du département, bon, sont ouverts de novembre à mars. Il y a une association de communes qui organise les marchés. Et donc, vous avez le marché de Castel, de Montauban, de Montège, de Valence d'Agen. Vous avez la communauté de communes du Caussadet qui fait le marché le lundi. Vous avez les marchés de gras aussi, il me semble, à Montauban de Quercy le dimanche matin. Donc, il y a moyen, chaque jour de la semaine, quasiment, de trouver un marché de producteurs sur le département.
Alors voilà votre démarche demain matin ou après-demain matin, éventuellement selon l'endroit où vous vous trouvez, parce que on va pas oublier qu'on nous écoute aussi du côté de Cassagne-Bégonnesse, de Rodez, de Villefranche-de-Rouergue, de Corde, d'Albi ou de Gaillac.
Et depuis quand?
Donc effectivement, on est avec les producteurs du Tarn-et-Garonne, donc on parle beaucoup de Tarn-et-Garonne aujourd'hui. Mais où que vous soyez, demain matin, vous avez sans doute un producteur de foie gras qui va se pointer sur votre petit marché. Vous y allez, vous y achetez un foie gras, mi-cuit, cru,
frais.
Et là, vous en faites ce que vous
propose
Patrick.
Et là, on attaque un millefeuille de foie gras poêlé au pain d'épices. Alors, ça, c'est pas une recette que j'ai inventée, mais c'est une recette que j'ai piquée à Gilles Cadamuro, qui est le chef de la Cave aux Délices. Alors, comme je l'ai mangé plusieurs fois chez lui, je me suis régalé. Donc, et puis, il l'a mis en ligne sur son site. Il nous faut quoi? 5 oignons moyens, des raisins secs, 5 grammes, du miel liquide, à peu près 70 grammes, du vinaigre de Jerez, 10 centilitres, 4 tranches de pain d'épices, 4 escalopes de foie gras de canard de 150 grammes chacune, de la fleur de sel, du poivre du moulin, réduction de vinaigre balsamique, des pluches de cerfeuil. On fait comment pour faire ça? Donc, un millefeuille de foie gras fouillé au pain d'épices. On fait suer les oignons dans une cocotte en fonte avec de l'huile d'arachide et du gros sel pendant à peu près 15 à 20 minutes. On y rajoute les raisins secs et on prolonge la cuisson de 5 minutes. On ajoute le miel liquide. On augmente la puissance du feu pour faire accrocher le miel. Puis on déglace avec le vinaigre de Jerez et on fait cuire jusqu'à complète évaporation. Donc ça, c'est la préparation qui va dessous. Les oignons, le confit d'oignons qui va aller dessous. On cuit les escalopes de foie gras dans une poêle anti-adhésive très chaude pendant 3 minutes de chaque côté. Donc poêle anti-adhésive, on fait chauffer ça à bloc. On met son escalope de foie gras. En 3 minutes, bon, suivant comme on l'aime, moi je le fais un peu moins longtemps que 3 minutes, disons que 90 secondes, c'est pas mal. Bien saisi, ça reste presque cru à cœur. Donc on tourne, on retourne, ça etc.
Il le fait bien, hein.
On enlève les... c'est longue habitude, hein. On débarrasse sur un papier absorbant, on dégraisse la poêle en gordant un peu de gras de canard et on y passe le pain d'épices sur les deux faces. Pain d'épices, vous en trouvez en ce moment à la coupe chez Michel Martin, épicier en bas, là il a des pains d'épices à la coupe qui sont splendeurs. Ouais, splendeurs. Et ou alors sur le marché demain, il y en a aussi qui est pas mal.
C'est bon ça.
C'est bon ça. Donc on a fait revenir son pain d'épices des deux côtés dans le reste de graisse de foie, hein, qui est délicieux.
On débarrasse le pain d'épices sur un papier absorbant pour éliminer l'excès de gras et ensuite on dresse ça dans une assiette. Alors, si vous êtes un petit peu équipé, vous prenez un cercle en inox ou alors vous prenez un bol. On dresse le chenet d'oignon dans le bol, on le met dans l'assiette, ça fait un truc rond comme ça, hein. On l'aplatit. Si on a un cercle en inox, on met son cercle en inox, on dresse le chenet d'oignon, on enlève le cercle, donc ça fait un beau rond au milieu de l'assiette. On dépose une tranche de pain d'épices, une tranche de foie gras poêlé et de nouveau un morceau de pain d'épices par-dessus. On fait un va-et-vient en diagonale avec la réduction de vinaigre balsamique sur le millefeuille. On assaisonne avec la fleur de sel et poivre du moulin, quelques pluches de cervelle en décoration. Alors, si vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez le manger à la cave aux délices.
Le va-et-vient en diagonale.
C'est vachement simple à faire.
C'est un burger au foie gras, quoi.
C'est un burger au foie gras. Un burger au foie gras, au pain d'épices, avec un chutney d'oignon dessous. C'est vachement bon. L'alliance salée-sucrée. Et là, on boit par-dessus. Moi, j'aime bien boire un truc genre un Riesling bien tendu, ou même un Gewürztraminer. Je suis plutôt sur l'Alsace, sur ce genre de choses.
De toute manière, pour le va-et-vient en oblique, il faut être un truc bien tendu.
Il faut que ça soit bien
tendu. Je sais plus où on en est.
On a le choix entre du jazz et de la musique africaine.
Oui mais... Oh. Ah mais...
Vous écoutez un peu de musique quand vous êtes dans vos fermes, messieurs les producteurs de foie gras. Est-ce que vous faites écouter bien de sûr. La musique à vos canards?
Les canards et les gaveurs aussi écoutent la musique. Oui. Et c'est très varié.
La conversation avec les canards est un peu limitée.
Coin. Coin trop dans le fond.
Vous devriez faire écouter du Femi Cuti à vos canards.
Grosse nouveauté, il est sorti il y a 15 jours, c'est donc le nouveau Femi Cuti. Je vous en ai parlé de maintes fois de Femi, dès qu'il sort un album, je vous en parle. Mais il faut reconnaître. Même quand il ne le sort pas, c'est vrai, je le ressors des fois. Il faut reconnaître que le fils de Fela, donc la légende de l'Afrobeat, est un des meilleurs musiciens actuels, multi-instrumentiste. Et sur cet album, Africa for Africa, il joue de la trompette, du sax, de l'orgue, et bien sûr, il chante avec cette voix possédée, hein, comme son père, pleine de force et de conviction politique avec tous les problèmes qui secouent le Nigeria à l'heure actuelle. Il en parle très bien sur son disque. Et si dans son précédent opus qui s'appelait Day by Day, Femi s'était un peu popisé sur certains morceaux, et tenter le jazz, justement, son admiration pour John Coltrane y est pour quelque chose, je pense. Et bien là, il revient à un son plus brut, du pur afrobeat. L'album a été enregistré dans le mythique studio Aphrodisia Deka, qui est situé en plein Lagos, l'immense ville du Nigeria, la seconde ville africaine après le Caire, hein. Donc c'est quand même énorme comme ville. Et l'ambiance est très 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 chaude à Lagos. C'est Sodi, le français qui suit Femi depuis plusieurs années, le sait parce qu'il a failli devenir fou en enregistrant ce disque. Il y a eu tout un tas de problèmes. Il y a eu des coupures d'électricité en pleine session d'enregistrement. Alors il fallait recommencer les sessions. Il y a eu la clim en panne, il faisait une chaleur pas croyable. Obligation de respecter des horaires stricts parce qu'il faut pas se balader en pleine nuit dans Lagos parce que ça craint vraiment. On se fait tuer carrément. Donc Lagos est très très chaude et on retrouve cette ferveur africaine sur cet excellent disque donc de Femi Cuti qui s'appelle Africa for Africa et on écoute le titre Africa. Africa for Africa is the way I say.
Ah ouais. Africa, du pain, Africa, du foie gras, on est pas mal. Africa for Africa. As Africans we must love Africa. Africa for Africa. As Africans we must care for Africa. Africa for Africa.
Africa for Africa. 4000 canards à peu près, des exploitations qui vivent du canard. C'est une moyenne, ça n'a rien à voir avec les exploitations, les gaveurs industriels qui font des bandes de 1000 canards par bande.
Femi Kuti avait son dernier disque Africa for Africa, hautement recommandé pour tous les amateurs de musique africaine et d'afrobeat en général.
J'avais une question.
Moi je l'ai oublié. Non, zut. On perd du temps là.
Est-ce qu'il existe des machines pour gaver? Est-ce que la Berry, par exemple, industrielle, il a toute une ligne de canards?
Ah ouais, est-ce que le canard il va en œuf d'un côté de la ligne et puis il sort en foie gras de l'autre côté?
Vous êtes mal placé parce que nous on est des gaveurs traditionnels, donc on ne peut pas vous répondre à cette question. On l'a posée aux gens qui sont intéressés. Je ne sais pas.
Vous battez contre voilà, une certaine mauvaise façon de faire du foie gras quand même?
Non, il y a de la place pour tout le monde et chacun, c'est au consommateur après.
Ça vous fait pas mal quand même quand on mange du bloc de foie gras à la Berry là quand même?
Mais disons qu'il y a une démocratisation du foie gras qui s'est créée. Bon, dans un premier temps, on pensait que ça allait nous faire du mal. Et puis, en fin de compte, on s'aperçoit que les gens ont...
Ça fait connaître le produit.
Un produit industriel. Et viennent maintenant vers le producteur, vers la source, quoi, sur un produit traditionnel. Et on a une augmentation de clientèle qui est constante depuis des années.
Est-ce qu'on a, comme sur les œufs, justement, on parlait tout à l'heure du 0FR, 1FR, 2FR, est-ce qu'on a sur les foie gras une indication pour savoir si c'était une petite production traditionnelle?
C'est le dernier lieu de transformation. Non,
le seul endroit pour le trouver, c'est d'aller sur les marchés. Sur les marchés, il n'y a que des petits producteurs,
Foie gras. Carrément à la ferme.
Pour les œufs, on a vu que c'était pas toujours vrai. On peut aller sur les marchés et avoir des œufs industriels.
Le gros problème du foie gras, c'est que c'est un produit qui se travaille frais. L'œuf, ça a une durée de conservation où à la pente, ça se voit pas. Un foie gras frais, c'est à la portée de tous les yeux. Enfin, tout le monde ne peut voir la couleur du foie. Un foie, en 2-3 jours, il va changer de couleur s'il est frais. Donc, sur les marchés, il n'y a aucun souci.
Et alors, on est en pleine période là, des marchés au gras où chacun va acheter son canard ou son noir en entier.
Bien sûr,
ça se fait beaucoup en ce moment.
Bien sûr.
Vous y êtes, vous, sur ces marchés-là? Vous vendez des canards entiers avec le foie à l'intérieur?
Ouais. Moi, je suis sur le marché de Montauban le samedi et le mercredi aussi, place de la Lac. Voilà, maintenant, on vend 80% ou 70% c'est sur commande, 15 ou 3, voilà. Donc après, mais le reste c'est aussi en frais sur les marchés, évidemment, parce que c'est là qu'on va discuter à la rencontre des consommateurs, on explique aux gens qui connaissent pas, parce que le foie gras ou le canard, on n'y vient pas quand on a peut-être 15 ou 20 ans ou 25 ans. À un certain âge, on pense plutôt aux bonnes tables, et c'est là qu'on va essayer de chercher, de prendre peut-être un peu plus de temps pour essayer de cuisiner quelque chose. Et surtout, je dirais, c'est un produit qui est pas cher du tout, parce que aujourd'hui, si on prend un canard comme on dit frais là, avec ou sans foie, mais un canard sans foie, ça vaut à peu près ça vaut à peu près 15 à 18 euros en gros, quoi, suivant la grosseur de la bête. Et avec ça, on peut faire plein de belles choses. On en a vu, on peut manger, vous avez deux magrets, des aiguillettes, des cuisses, vous mangez pendant, vous faites plusieurs repas avec l'achat de 15 euros. Évidemment, ça demande un petit peu de cuisine. On peut faire des allées cuits, il y a une multitude de recettes, toutes simples, avec des olives et des carottes.
Vous allez, on peut faire des allées cuits.
Avec
les abatis,
la carcasse.
La carcasse, il vaut bien faire une soupe.
L'allée cuit, s'il vous plaît.
L'allée cuit, il faudrait plutôt demander ça à ma femme.
Avec
les oignons, les pâtes, les couilles.
Pas tout le monde à la fois.
Vous mettez ça dans une cocotte, vous mettez un petit peu d'eau, puis vous faites revenir, vous mettez à mijoter des ailerons, des carottes, des olives, des manchons, une cuisse à la limite aussi, et voilà, il faut laisser mijoter un bon moment, et plus ça mijote, plus c'est bon. Voilà, mais ça demande un petit peu de temps. Et puis après, le magret tranché, voilà.
Mange quasiment la semaine.
Ouais.
Il fait la soupe avec les carcasses, il fait un alicuit, il a deux magrets, il a deux cuisses, des aiguillettes avec les cœurs, le gésier.
Et le soir, il va au canard.
Voilà.
Il faut le canard.
Tiens, t'as pris la parole, garde-la. Combien de temps il nous reste, Aurélien? 3 minutes? Ouh, peut-être qu'on va.
Juste un petit peu, on va mettre la musique et après je désannonce.
On va parler dessus, tu sais.
On va parler, oui, comme d'habitude. Donc, c'est. Bon, des standards du jazz, c'est un morceau que tout le monde connaît, il s'appelle When the Sun. Bon, il a été créé en 1890. Les descendants doivent percevoir des droits d'auteur de façon impressionnante parce que c'est joué par tous les orchestres de Nouvelle-Orléans et beaucoup d'orchestres de jazz allemande. Mais à l'origine, c'est un morceau qui accompagne à la Nouvelle-Orléans, qui accompagne les mordis, les enterrements. Au cimetière, on le joue lentement. Il le joue lentement en façon... marche funèbre, et puis au retour, c'est en chantant, c'est-à-dire qu'on prend un autre tempo, et le morceau est joué de façon enjouée et plus swingé. Donc c'est un morceau qui se joue sur plusieurs tempos. Bon, c'est un morceau que n'aiment pas trop les musiciens, parce que quand les musiciens jouent, il y a quelqu'un qui dit, qui trouve la soirée agréable, et qui dit, vous pouvez me jouer tel morceau, il demande au When the Sun. Donc ouais. C'est un petit peu ce qu'on appelle dans le jargon musical un saucisson, un morceau que les musiciens n'aiment plus jouer. Il faut dire que la Nouvelle-Orléans, comment s'appelle j'ai oublié le nom, bon, c'est pas grave, au Prevention Hall, c'est-à-dire c'était le club de jazz où les gens vont aller voir Sweet Emma, qui était une pianiste qui avait 95 ans, qui jouait toujours du piano, pour jouer les morceaux. On fait des morceaux à la demande pour $1, mais pour When the Sun, on payait $5.
On va juste remplir les verres et trinquer une dernière fois. Allez, monsieur Mont.
C'est presque tout droit. Oui, en Paris, il coupe à travers champ, c'est volé.
On y est. Il nous reste quoi, une minute pour faire rapidement le tour de la table pour nous dire ce que vous faites ce week-end, les gars. Georges, qu'est-ce que tu fais?
Alors ce soir au VO, il y a le Gospel Blue Note, c'est à 20h30, c'est organisé par le Lyon Club de Montauban, c'est une soirée caritative. Ensuite au Garden Ice, à partir de 19h30, il y a le Kersey Swing Jazz, c'est un orchestre jazz manouche avec violon et guitare. Et par contre, mercredi soir, au Théâtre de Montauban, il y a une soirée en hommage à André Zorzin, qui était musicien, professeur du conservatoire, saxophoniste, qui est décédé l'an dernier, et dont qui a dirigé le Big Band de Montauban. Et mercredi soir, il y a une soirée à son honneur.
Heureusement qu'on a une minute. Hein.
La même que Georges.
Alors ce soir, bien évidemment, je vais au Rio à Montauban. Il y a June en première partie, suivi du concert de Luc.
Enregistré en direct et sur CFM, pardon.
Vas-y Rémi, c'est bon, pareil.
Bah, Vaudou Child demain soir à l'acoustique, c'est à Montauban. Lucas au VO, c'est aussi à Montauban. À Aulnay-le-Château, un gros concert avec notamment, c'est organisé par la MJC, c'est vachement bien. Et puis voilà, comme on n'a plus le temps, je voulais quand même saluer nos deux producteurs de foie gras qui sont venus nous voir ce soir, Alain Degans et Jean-Claude Mourgue, qui nous ont vraiment régalé. Merci messieurs, bravo à votre copain qui fait le pain aussi, au domaine de Ganap qui fait le vin aussi dans les vins du coteau du Quercy, au château de Saint-Louis, au domaine de Calories. Enfin des Calories, on en a pris ce soir.
C'est pas fini parce qu'on attaque la troisième mi-temps.
Merci Aurélien de ta patience, on a été trop long, je sais, ça va être n'importe quoi pour la raccro avec
les autres. On s'excusera auprès des Tarnais et des Aveyronnais.
Voilà, merci à vous tous. Passez un très très bon week-end. C'était Qu'est-ce qu'on déguste ?